Alors, j'ai décidé de... rester dans la même époque pour voir des approches différentes et le... mais avec des glissements qui peuvent vous indiquer comment je... Enfin, là, c'est comme j'ai choisi des extraits, mais des glissements de ceci et cela qui peuvent vous montrer comment je pense que je suis en train de construire pour répondre à une question que quelqu'un m'avait posée tout à l'heure. Mais la prochaine chose qu'on va écouter n'est pas de moi, c'est de quelqu'un... qui a fait, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça que je la connais, une fille qui s'appelle Émilie Mousset, qui a fait un stage avec moi à Arles, à Fonerjanova, il y a pas mal de temps. Et tout d'un coup, Émilie m'a envoyé une pièce... qu'elle venait de finir et en me demandant de l'écouter. Et elle suit les cours d'électroacoustique à Pantin, à Paris. Et c'est un peu dans le même domaine. Ça concerne le travail de Charlotte Salomon, qui est une artiste juive qui a passé la guerre à Marseille. Bon, tout est dit. C'est un travail qui ressemble beaucoup plus à ce que j'ai entendu de vos travaux sur le site. Mais en même temps, il y a immensément d'informations. Je dirais qu'il y a beaucoup plus d'informations là-dedans qu'il y en a dans Lola. Alors, Émilie m'a dit que le texte... Bon, moi, j'ai pensé que le texte était d'elle. Et ça aurait pu l'être... C'est de... comment elle s'appelle? Sarah? Je vais le trouver. C'est un texte, c'est une proposition faite par une revue qui s'appelle Perroquet. Et c'est le deuxième numéro de Perroquet. Et la proposition était de faire une musique à partir d'un texte. Et je ne sais pas si une des contraintes était... d'inclure le texte, Sarah Siller, voilà, elle s'appelle comme ça. Mais ça, vous allez pouvoir trouver sur Internet, et je crois que il y avait l'idée de sortir les œuvres sonores sélectionnées sur CD, ou au moins, quand ils auront choisi lesquelles, de les mettre sur SoundCloud, le site SoundCloud de cette revue Perroquet. Alors, si vous ne connaissez pas le travail de Charlotte Salomon, c'est pas grave, mais ça m'intéresserait vraiment de voir vos réactions à cette pièce que je trouve très belle. Elle dure 15 minutes quand même. Moi, je serais très intéressée de savoir comment vous avez reçu cette pièce. Moi, je l'ai écoutée maintenant 3 ou 4 fois. Je ne connais pas tout, parce que comme je vous dis, ça m'est arrivé comme ça. Et quand j'ai décidé de l'utiliser, elle n'avait pas toutes les données en main par rapport à la revue et des choses comme ça. Je peux vous dire ce que j'ai pensé moi. Enfin, c'est d'abord qu'il y a énormément d'informations. On sait vraiment beaucoup, beaucoup de choses de façon très succincte. Mais ça, je me suis dit dans un premier temps, je pense qu'il y a plus d'informations, mais il y a aussi de l'analyse de l'œuvre de Salomon. Ce qui, j'ai même pas essayé ça dans Lola. Il y a deux fois, deux reprises, la fille émet un avis sur quelque chose. Mais... Et ça, je ne voulais pas le faire. Mais là, il y a une ligne qui te dit comment considérer les gouaches de Charlotte Salomon. Je suppose, et ça, je n'ai pas posé la question encore à Émilie, qu'elle a dû faire un travail assez considérable par rapport au texte. Parce que je ne pense pas que le texte ait été livré comme ça. Mais c'est ça qui serait intéressant à savoir. Les phrases sont... À moins que ce soit un texte complètement poétique, quoi. Je pense qu'elle a dû le travailler pas mal. Et c'est elle qui le lit. Je lui demande quelquefois de me lire des textes dans mes documentaires parce que j'aime bien cette voix un peu cassée, un peu blanche. Oui. J'avais remarqué aussi, et c'est pour ça que j'avais pensé que c'était elle qui avait écrit le texte, il y a un petit ton durassien. C'est assez Marguerite Duras quelque part. Et c'est pour ça que je sais qu'elle aime bien Marguerite Duras, et c'est pour ça que j'avais immédiatement pensé qu'elle avait écrit le texte. Un peu comme ça, mais ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être pour ça qu'elle l'a choisi, s'il y avait plusieurs propositions. Des phrases comme elle fredonnait toujours avant de peindre, ça me semble très durassien. Qu'est-ce que j'ai pensé encore? On peut penser, si on ne l'aime pas, que le travail avec la voix est très maniéré aussi. Mais c'est très maniéré. Mais je crois que... Mais ce n'est pas une critique. C'est une façon maniérée de lire un texte. Mais le but, tel que je l'entends moi, c'est de l'intégrer comme musique avec les autres musiques plutôt concrètes ou les sons électroacoustiques. Est-ce que vous auriez des choses à...
La voix, elle est quand même par-dessus, en fait.
Elle parle beaucoup. Elle n'arrête pas.
Comment ?
Elle parle beaucoup ?
Non, je dis que... Enfin, parce que justement, moi, j'ai trouvé le ton assez dramatique dans la voix. Et du coup, je trouve que... si c'est pour l'utiliser comme une musique... Je trouve qu'il est toujours au-dessus quand même de la musique, du son. Enfin, moi, j'ai hiérarchisé
que
quand
tu
même
l'aurais
la voix et le son.
Enterré.
Voilà, j'ai pas senti la voix comme intégrée dans le son. J'ai plutôt senti qu'elle était toujours au-dessus. Et,
c'est vrai.
Et du coup, c'était... Enfin, voilà. C'est pour ça que en fait, c'est ces moments quand il y a la voix doublée et des choses comme ça, vu que c'était au-dessus, ben... Je trouvais que je ne comprenais pas en fait vraiment pourquoi c'était comme traité musicalement.
Moi, je ne sais pas non plus.
Ça n'avait quand même clairement pas le même statut que la musique. Enfin,
pourquoi pas. Oui, mais pourquoi pas. Peut-être qu'elle l'a considéré. Je ne sais pas, mais ce sont des questions que je peux lui poser, éventuellement. Ça pourrait être enterré à la Godard, par exemple, comme ça. Mais peut-être qu'elle a considéré que le propos du texte... Peut-être qu'elle a pas considéré la voix comme une musique, mais comme une voix de récitant, ou quelque chose comme genre oratorio, ou je ne sais pas.
Avec toi, parce que c'est vrai que la musique, c'est un autre propos, en fait. Et ce que je dois, c'est expressionniste. Je dirais que c'est du son expressionniste.
Alors, oui.
Il y a un côté comme ça, très en matière, qui en dit beaucoup. Alors peut-être trop.
On dit beaucoup.
Ouais.
Ça, on n'arrête pas de dire.
Oui.
Mais je crois.
Je parle de la bande de l'électro, en fait. L'électro qui est très.
Mais moi, j'avais trouvé que ça marchait quand même. Hein.
Dans le genre. Le rapport entre les deux marche bien.
Mais ça n'arrête pas une seconde. Si, il y a les moments de silence. Et ça, c'est très inattendu et très bien.
À la fin, c'est un peu monolithique au début. Et à la fin, ça module plus.
Oui. Elle n'était pas sûre de l'avoir fini non plus. Hein. Mm-hmm. Mais je lui ai dit que j'allais le faire. Et moi, la dernière voix, c'est qui? C'est Ginsberg, je crois. Ça, j'ai pas posé. Je crois que c'est Ginsberg ou des. Je pense que c'est Ginsberg. Mais pour moi, il est trop fort. Et chaque fois que je l'écoute, je me dis qu'il est trop fort, qu'elle l'a voulu très fort. Et je sais pas pourquoi ça me gêne, parce que c'est une voix qui peut être trop forte aussi. Mais il s'intègre pas dedans. Mais je trouve que c'est une proposition assez intéressante quand même. Ce qu'elle fait là, ça existe bien.
Parce qu'elle a pas fini, c'est ça?
Elle m'a dit qu'elle allait peut-être faire un autre tour, mais peut-être qu'elle doit le lâcher à son destinateur.
Parce que moi, par exemple, au moment où elle utilise les grillons, justement, c'était, en fait, c'est rigolo parce que vu que je les intégrais dans mon cerveau comme la musique, les sons qu'elle utilisait au début, j'avais en même temps. J'essayais de me projeter dans un paysage et en même temps dans juste le son. Et puisqu'à des coups, à un moment donné, elle fait cette espèce de. Et je trouvais que. Enfin, je trouvais que. Il y avait un truc que j'arrivais pas à rentrer dedans, même si je savais que quelque part je pouvais. Enfin, c'était un peu étrange par rapport à ce moment-là, en fait. Enfin, et je sais pas si c'est le volume de tout ça ou la hiérarchisation, ou je sais pas, il y a eu un truc.
Peut-être. Il y a des grosses masses sonores, ça c'est vrai. Hein? Et une masse de voix. Mais ça doit être un parti pris. Moi, je pouvais rentrer dedans, mais j'ai dû m'accrocher à la parole en me disant, j'ai écrit, il y en a beaucoup et c'est dramatique. Mais finalement, je me suis dit, non, mais c'est voulu, quoi. J'ai rien en dire, quoi. Ça, c'est une autre version de la même histoire, plus ou moins, dans un autre pays, une autre esthétique. Si on reste. C'est comme ça que je marche, par association, quand je construis mes trucs. Glissement, associer cela, continuer de ce qui est disponible. Et j'avais l'intention de vous faire écouter tout à fait autre chose, et je me suis dit non, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'hésite beaucoup à traiter l'époque de la Deuxième Guerre, pour la très bonne raison qu'il n'y a pas eu de guerre en Australie. Ça me semble toujours très lointain. Mais je l'ai fait plusieurs fois, mais par des chemins de traverse. Et je me suis dit, tiens, les émissions sont d'époques différentes. Et j'en ai fait une sur le Struthof en Alsace, le camp d'extermination. Enfin, c'était un camp de travail comme beaucoup de camps, et puis c'est devenu un camp d'extermination. Et c'est une émission que j'ai faite d'abord pour l'atelier de création, à l'époque où je crois que ça durait 2 heures. C'est long. 1h30 au moins, mais peut-être 2 heures. Et j'ai décidé. Ça, c'est peut-être intéressant. Comme j'expliquais, j'ai vécu en Alsace quand je faisais ma thèse. Et je suis allée quelquefois au Struthof. Et à l'époque, il y avait d'anciennes détenues qui servaient de guide. Et le camp était encore intact. Ça a été brûlé par des néo-nazis il y a quelque temps. Et il reste juste un baraquement, quoi. Enfin, un groupe de bâtiments. De toute façon, j'ai dû y aller une fois quand il y avait des gens en visite ou quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai eu une sorte de haut le cœur et je ne voulais plus y aller. Et ça a duré longtemps. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais il faut que je fasse. Ce lieu m'a habité. Mon inconscient ou quelque chose pendant tout le temps que je n'ai plus pensé. Je vais essayer de faire une émission là-dessus, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. Et Donc, ils étaient d'accord pour que je fasse l'émission à France Culture. À l'époque, on parlait moins du scrutin. C'était un lieu de silence, d'ailleurs. C'était un non-dit en France. À un certain moment, on a commencé à en parler. Mais quand j'ai fait l'émission, non. Et j'ai dû faire des trucs assez incroyables afin de pouvoir y aller. Je crois que je suis allée une fois en repérage. Et puis j'ai appris qu'il fallait avoir les autorisations du ministère de l'Intérieur et de l'Armée. Et ça, c'est un enjeu long. De toute façon, en essayant de les avoir, j'ai appris qu'il y aurait un rassemblement d'anciens détenus. Et dans la mesure où je ne savais pas du tout ce que je voulais y faire, c'était bien. Alors c'est un camp qui, au début, était parmi ces camps inaugurés par Hitler en 1941, je crois, où c'était l'intention d'envoyer tout ce qui était résistant dans les mers du Nord. Il y avait un réseau de résistance. Donc le but, comme toujours, de les éloigner le plus possible de leur base. Donc en cas d'évasion, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, quoi. Et les premiers enregistrements que j'ai faits, c'était au moment de cette cérémonie, mais j'ai pu voir les gens déjà assez âgés. Et j'avais des paroles extraordinaires. Mais je suis retournée plusieurs fois pour faire des sons et pour parler aux gens du village qui servaient encore de guide quelquefois. Et là, c'était vraiment... j'avais la même intention que dans Lola, de dire le moins possible et de laisser le plus d'espace, etc. Et après, l'émission a été prise par l'Allemagne et par l'Autriche et par la Suisse à cause de l'Allemagne et à cause du sujet, et la Suisse et l'Autriche à cause de l'Alsacien, puisque les langues sont assez similaires dans les formes d'allemand. Et personne n'était d'accord avec ce que j'avais dit, et tout le monde avait un autre avis. Et les Allemands ont dit non, c'est beaucoup, on ne traite pas d'un sujet comme ça. Et moi, c'était plutôt de laisser ouvert et de laisser dire et de parler du paysage, parce que il faut dire que, et ça, les traduire en radio, c'est un site d'une beauté incroyable. C'est dans les Vosges, c'est sur le flanc d'une colline, ce qui faisait que les prisonniers pouvaient presque pas s'évader avec 200 grammes de pain par jour. Ils étaient trop affaiblis et travaux forcés pour grimper la pente. Et c'est vraiment un tout petit fragment que je vous donne ici, dont je pourrais dire c'est de la même époque, vu à travers deux paires de lunettes de distance, quoi. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est une cérémonie officielle entrelacée d'autres choses. C'est monté, mais il y a peu d'intervention. C'est aussi un mixage analogique des années 90, je crois. Le niveau est peut-être bizarre.
prières seront dites par les aumôniers représentant les cultes israéliques, protestants et catholiques.
Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de tous ces corps humiliés qui, par le feu et qui par l'eau, qui par le fer et qui par la faim, qui par la potence et qui par le typhus, qui par les injections et qui par le gaz.
Mais qui par le feu ? Mais qui par l'eau ? Mais qui par le fer ? Mais qui par la feu ?
D'après les témoignages de M. Idou, qui était le fermier qui était à côté, là, il a énormément entendu de hurlements et de gémissements. Ça, il en a entendu parce qu'il était assez près. C'est seulement à partir d'un certain moment, c'est là qu'on commençait à savoir un petit peu qu'il y avait quand même des choses qui se passaient qui n'étaient pas vraiment très catholiques. À partir d'un certain moment, on savait qu'il y avait un faux crématoire. La cheminée était assez grande, suivant la direction du vent. La fumée, elle était chassée dans la vallée, parce que pas loin de la ferme Idou, en bas, les gens de Natsuner, ils avaient des prés. Et à l'époque, on avait chaque famille avait sa vache, et puis on faisait du foin, Et là, on a été une fois monté avec mon père, et puis encore des autres, pour aller faucher, et puis on ne pouvait pas faucher, et ils ont pris la décision de retourner, parce que le vent, il venait de l'est, et il a poussé toute cette fumée dans cette direction, là où ils voulaient travailler, et c'est là, ils savaient déjà, je me souviens encore très bien, qu'ils ont dit, ah, ils sont encore là-haut, ils sont encore en train de brûler des cadavres.
Les pas avancent dans l'ouate.
Ohne Gewicht Schritte.
Comme en apesanteur.
Schwimmen im Schaum.
Nebelmantel.
Le brouillard épais.
Senkt sich tief.
Descend lentement.
Auf Narben.
Se couche sur les cicatrices. Voile les visages.
Verhüllt die Gesichter.
Donc, pas exactement le même domaine, mais la même époque ou quelque chose comme ça, mais vu d'une autre époque. À travers les célébrations militaires, que, encore une fois, pour nous, sont d'une banalité extrême, mais le message est très fort, même sans intervention. Et je ne sais pas à quel moment, mais il me semble que c'était depuis le début que je savais que j'allais demander à un enfant de chanter la Marseillaise au milieu de toute cette masse officielle. Il me semblait que là, c'était un cas où le réel était beaucoup plus fort que tout ce que je pouvais faire pour le toucher. Les silences sont réels. Et je pense même qu'ils sont coupés, puisque c'était plus long. Et ça partait à un moment où il n'y avait pas de compresseur à France Culture. On ne peut pas faire ça maintenant. Il y a un compresseur qui monte de 10 dB s'il y a un silence aussi long que ça. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus être rediffusées pour cette raison. Mais moi, je trouve que les silences, justement, et je voulais que ce soit une émission qui baigne dans une sorte de silence comme le lieu. Qu'il y ait autant de silence possible. Et j'essaie de faire ça. Il résiste fortement à cause des problèmes avec le compresseur. Mais c'est aussi une esthétique qui est pas si much, quoi, le silence. Et c'est très dommage. Il faut la ramener. Le silence est un bienfait incroyable et une force incroyable, je trouve. Et le silence est très parlant. Et justement, le petit bout après, c'est comme ça que j'ai raisonné un truc et qu'il va falloir que je saute, sinon on n'aura pas de temps. C'est une autre pièce, mais faite 10 années plus tard, plus récemment, quoi, en Alsace, avec un poète, maintenant décédé, qui s'appelait Conrad Winter, que j'ai rencontré au moment de faire le Struthof. Parce qu'en fait, ma question de base, quand j'ai fait l'émission sur le camp, quelqu'un m'a demandé comment je procédais. Non, c'était pour l'organisation, mais j'ai au moins une idée. Et c'était la question c'est ce qui m'interrogeait quand je vivais en Alsace. Est-ce que les gens qui habitaient à côté savaient que le camp était là? Et c'était ma seule question, vraiment dans ma poche, quand je suis allée dans la région. Et j'ai commencé en ville et je suis allée plus haut et tout le monde me raconte. Je suis allée dans des bistrots, mais toujours un peu introduite, quoi. Enfin, pas demander à n'importe qui, mais des gens qui avaient été là. Mais c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on en savait? Et j'ai eu beaucoup d'histoires différentes. Et ce poète, je l'ai rencontré. Quelqu'un m'a dit il faudrait vraiment que. Parce qu'il avait tel âge au moment. De l'annexion de l'Alsace, il avait 8 ans ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai rencontré. Et en fait, l'émission s'appelle Étrangers en Alsace. Et c'était encore une fois coproduit par la France, l'Allemagne, pas l'Allemagne et l'Autriche, plus la France plus tard. Les Autrichiens avaient décidé de l'appeler Le silence est un trou noir. C'est un des poèmes qu'il dit. J'ai utilisé de très petits poèmes qui sont écrits, je crois qu'ils sont en allemand, alsacien et peut-être français, ces poèmes. Le silence est un trou noir. On dit que l'Alsace est une région très silencieuse où tout se tait, pour beaucoup de raisons. Ce sont des Alsaciens qui m'ont dit ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de dire. Et lui, il était à plein dedans. Et ça m'intéressait beaucoup comme prolongation à l'autre pensée par rapport au camp. Bon. Allez. Il veut pas. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà. C'est bon, je crois.
Le non-dit.
Le non-dit.
Est un trou noir.
Pas le silence.
Das Ungesagte, le non-dit, est un trou noir, est un schwarzes Loch. Je ne ferai pas d'autobiographie, non. Mon expérience de vie est de toute façon inscrite. Mais je n'ai pas parlé de ma vie. Sauf ici dans le village, mais c'est parce que les paysans étaient surtout très silencieux. Ils ne parlaient jamais de leur vie. Ils ne devaient pas le faire dans le Korsberg. C'est la loi du silence. Ici, il y avait quelques gros paysans. Le reste, c'était des petits qui avaient peut-être parfois une vache chez eux à la maison.
C'est la loi du silence, ici.
J'ai entendu dire un jour un ami paysan, « Tais-toi, moi j'ai plus de terre que toi. »«
Tais-toi, j'ai plus de terre que toi. »
On distingue encore maintenant de grandes fermes et de petites baraques où vivaient ceux qui travaillaient pour les grands paysans. En alsacien, on dit Knecht. Knecht, c'est comme, c'est pas esclave, mais serf au moins. Hein? Knecht.
Knecht, on les appelle en alsacien.
Ce n'est pas ouvrier, ça veut dire presque esclave. Donc un être dont on peut disputer.
Ici, c'est la loi du silence.
Alors ici, effectivement, on ne parle de rien. C'est la loi du silence.
La loi du silence.
Difficile à franchir que le Rhin. On appelle de Forst. Les gens qui avaient des moyens économiques réduits, c'est-à-dire les pauvres ou les ouvriers, en vivaient en partie. Ils allaient cueillir notamment les heidelbeeren, n'est-ce pas, les myrtilles. Ils allaient chercher du bois. Et j'avais un ami dont le père allait chercher le bois pour tout l'hiver. Hein. Je vois encore le père de mon camarade qui tirait cette charrette pleine de bois.
Un lieu de passage, l'Alsace.
Nous avons eu beaucoup de groupes ethniques qui ont peuplé l'Alsace. Il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de morts en Alsace. On gratte un peu et on trouve des squelettes. C'est un peu comme au Moyen-Orient. L'Alsace a connu beaucoup de misère, de massacres. Et d'ailleurs, en Alsace, on disait que de toute façon, tous les 20 ans, chaque génération aurait sa guerre. Je suis né en 31. Oui, mais ça, c'est une drôle de...
Le deuil sera blanc comme neige. Die Trauer wird weiß sein wie Schnee. Le deuil sera blanc comme neige. Il déteste la neige.
Ich hasse den Schnee.
Je déteste la neige.
Et pourquoi est-ce que je n'aime pas la neige? Je déteste la neige parce que j'ai vu le sang de mes camarades sur la neige en 1944. Il y avait beaucoup de neige à ce moment-là sur le pays.
Bon, une autre version de la même histoire, racontée par quelqu'un d'autre. Et là, on aborde le sujet, le vrai sujet, le vrai cœur de l'émission qui est l'histoire de Conrad. Mais il avait besoin, c'est un homme qui était humaniste, profondément protestant humaniste, tel qu'on trouve dans certaines régions. Mais son histoire à lui, c'était qu'il était, comme il dit, enfant naturel. Et que personne ne lui a dit, quoi, que ça lui a été caché. Ça, c'est le début de son histoire de trou noir, de tout ce qui est caché pour des raisons de pouvoir dans une région. Donc il avait besoin d'esquisser, de faire une sorte de fresque de la région. Mais là, vous voyez, on a glissé depuis la guerre au silence, au blanc. Et pour moi, ce sont des images très, très fortes, quoi. Enfin, le blanc et le silence. Le blanc, enfin bon, c'est la neige, comme il dit, hein. Et la loi du silence, et puis le pouvoir du silence. Mais il y a le blanc radio aussi, il y a le silence radio. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout ce dont on n'expose pas dans nos documentaires, c'est quoi? Et je pensais vous laisser avec... Mais je marche un peu comme ça, dans mes constructions même de petits éléments. Ça glisse comme ça, et j'essaie de faire frotter les éléments ensemble, les éléments sonores et les éléments de discours ou des idées, pour que ça fasse une étincelle qui nous emmène ailleurs, quoi. C'est assez juste, mais c'est difficile à expliquer. Mais pour finir, parce que je crois qu'on n'a plus de temps, je peux continuer toute la nuit, tout le monde va être en nuit. Je pensais vous faire écouter un truc qui est c'est pas bien monté, mais ça m'a pris des siècles. C'est pas définitif. Moi, j'essaie de faire une émission à partir de la phrase. Si je perdais mes oreilles, je deviendrais aveugle.
Si
je perdais mes oreilles,
justement,
je deviendrais aveugle. C'est une phrase que j'ai croisée il y a très longtemps et qui m'interpelle depuis. Et il se trouve que j'avais rencontré des femmes aveugles. Il y a un an, je bouge pas vite sur mes idées, hein, mais celle-là, ça m'a clouée au sol. parce que c'est même très difficile à expliquer à un producteur. Bon, France Culture l'a pris, mais. j'ai rencontré donc deux femmes aveugles quand j'ai commencé à être taquinée beaucoup par la phrase et le désir de faire quelque chose. Une jeune femme sourde a croisé mon chemin, qui est sourde de naissance, mais qui peut parler. Et elle dessine, elle écrit. Il y a une deuxième qui a une autre histoire comme ça. C'est pas une émission sur le handicap, mais c'est, pour moi, ça doit avoir quelque chose à voir avec cette chose très importante dont je vous ai parlé, les images qu'on se projette quand on écoute une émission de radio, les images qu'on se... Est-ce qu'image, c'est le bon mot? C'est le mot qu'on utilise d'habitude. Qu'on se fabrique en écoutant du son. La radio est, comme quelqu'un m'a dit une fois, un médium aveugle. Il n'y a pas d'image. Les seules images sont celles qu'on se fabrique. À partir de quoi on les fabrique? Donc c'est ce que j'essaie de faire avec les petits-enfants de l'Inja et les plus âgés de l'Inja. J'y suis pas encore. Mais la fille sourde, je lui ai dit la phrase, je lui ai demandé de me parler du silence. Et je vais redemander si je peux, mais est-ce que vous allez pouvoir la comprendre? Ça, c'est une autre chose, parce que il faut que je trouve une façon de faire passer cette voix qui est difficile. Moi, j'ai mis 1000 ans, j'avais une heure et demie, je crois, mais j'ai mis un temps fou pour le monter. Et il peut y avoir des collants qui passent pas trop. Hein. J'espère que non. Voilà. Du blanc jusqu'à... Elle n'est pas très bien enregistrée. Elle était très difficile. Hein. Elle était assez loin de moi et elle tourne la tête tout le temps. Elle est très nerveuse aussi. Ça s'entend, je crois, dans sa voix. Et je crois que je l'ai montée un peu trop clean. Mais elle est vraiment assez difficile à comprendre, quoi. Et à l'état naturel. Et je me suis dit que ça l'a desservie. Ça ne lui servait pas du tout d'être incompréhensible. Qu'il fallait qu'on comprenne ce qu'elle dise, quoi. Mais... Je trouve que c'est absolument fascinant ce qu'elle dit. Et donc, pourquoi je fais cette émission, à part la phrase, je pense que c'est lié à toutes les autres choses, les petits bouts que je vous ai fait écouter. C'est quelque chose par rapport à la perception du son, aux images qu'on fabrique. Qu'est-ce que c'est que cette écriture sonore? Où ça tombe en nous? C'est pas très facile à dire, mais voilà. C'est ça mon approche au documentaire. C'est pas de faire le tour d'un sujet. La dame qui m'a facilité ma première visite à l'INJA, l'Institut des aveugles, là, elle voulait absolument, absolument penser que je faisais un reportage sur l'Institut. Et je lui ai dit 10 fois que je pouvais faire ce que j'avais à faire en 3 heures. Et elle a étendu l'horaire, elle a étendu, il fallait que je fasse une visite guidée, il fallait... Je n'avais rien à faire. Parce que le propos n'est pas là. C'est quelque chose de plus intime, et d'intime pas par rapport à la personne, mais par rapport au projet sonore. Je crois que c'est ça que je cherche, quoi. En tant que documentariste. Bon, on arrête là, parce que je crois que vous avez des choses. Vous me posez des questions. Hein.
Là, ce travail sur les aveugles, c'est en cours.
En plus
oh, c'est en cours, je viens.
Oui, mais c'est avec les deux.
Avec les deux.
Si je perdais mes oreilles, je serais aveugle.
J'ai du mal à saisir en fait comment elle a pu apprendre à parler en étant
ouais, je sais.
je sais tout ça, elle me le dit ailleurs. Mais elle me l'a dit, je l'ai vu plusieurs fois. Elle m'écrit souvent aussi. Sa mère voulait qu'elle parle. Elle ne voulait pas avoir un enfant autiste, elle a dit. Et elle l'a envoyé chez une orthophoniste qui faisait la rééducation phonétique, mais quand elle avait 13 mois.
Avant d'apprendre la parole.
C'est très dur, ça. Et elle ne sait, connaît pas le langage des signes. Parce que c'était mal vu.
Comment elle entend?
C'est pour ça qu'elle.
Elle est sur les lèvres, elle est sur les
lèvres. Elle est sur les lèvres. Mais ça indique une très peu du monde aussi. Et moi, elle peut pas, je n'articule pas, je veux dire. Elle a beaucoup de mal à nous comprendre.
Et juste par rapport à ce moment, cette histoire, de cette question sur la couleur des sons, oui. Vous en avez discuté avant? Comment ça a été?
Non. Et quand. Mais j'avais lu ce qu'elle a écrit, j'avais lu les textes d'elle. Mais normalement, moi je pensais à ça. Ça m'a. Parce qu'il est un peu difficile de savoir. Une histoire personnelle très douloureuse qu'elle m'a eu déballée. Je l'ai enregistrée parce qu'elle a voulu que je l'enregistre. Et ça lui. Ça l'officialisait quelque part. C'est pas mon conflit, parce que je pourrais très très difficilement, éthiquement, l'utiliser.
Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'en fait, elle ne peut pas s'entendre à la radio.
Non, mais. Je me suis rendu compte que j'étais dans une situation. Je partais beaucoup à un moment, quand j'avais dit qu'on pouvait faire quelque chose, l'enregistrement. Et j'ai expliqué par mail ce que j'allais faire. Et tout ça n'a aucun sens quand même. J'allais faire un stage à Arles, j'allais faire deux émissions de France Culture, et puis j'avais un colloque sur la radio en Allemagne. Et elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est absolument antinomique, c'est possible.
Et en même temps, c'est une force dramatique colossale.
Mais c'est incroyable. Elle partage son appartement avec quelqu'un, et parce que moi, qu'elle comprend très bien, très facilement, cette par habitude de communiquer. Et moi, je pense que j'aimerais bien amener mon montage, parce que ce gros côté éthique dans le documentaire. Faire écouter ce que j'ai comme montage pour l'instant aux deux pour que Aurélie soit informée. Ouais. Avec les aveugles, il y a pas de petit problème. Non, mais c'est. Ils sont moins coupés du monde. C'est quelque chose de beaucoup plus souple. Est-ce que vous connaissez, ça c'est dans ma réflexion par rapport à cette émission aussi, le travail de Sophie Kell avec les installations, les trois installations. Et c'est très intéressant, ça peut être dans la bibliothèque ici. Il y a les trois installations, et je crois que les trois ont été faites en Turquie. Le livre cher acheté. Et dans la première installation, elle a demandé à des gens qui ne voyaient pas, qui étaient nés aveugles, je crois. Pour vous, c'est quoi le beau? Dans la deuxième installation, des gens qui avaient une vision partielle, elle a confronté ce qu'ils pouvaient dire de leur vue avec des textes de monochrome. Artiste monochrome qui parlait de la monochrome. Quoi. Et la troisième, c'était des gens qui avaient perdu la vue dans un accident très rapidement, la dernière chose vue. Et à chaque fois, une photo de la personne de face qui ne se voit pas. Quoi. Et des gens, c'est très difficile de regarder ces photos, et puis le petit texte qu'elle a extrait, c'est un très beau travail. Et puis le texte est écrit en braille aussi. Et c'est une des choses que j'ai faites à l'Institut l'autre jour, j'ai demandé à des gens de lire, mais ce n'est pas le braille courant. C'est beaucoup plus difficile à lire ce qu'elle a fait. C'est un braille plus perfectionnel. Je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un nom. Donc ça, j'ai lu et relu et regardé ces livres parce que ça me... Je ne sais pas ce que ça m'apporte, mais ça m'apporte quelque chose dans ma réflexion avec ce que j'ai fait qui est pas très documentaire, qui est plus conceptuel, et moi je ne suis pas très conceptuelle. Je suis plutôt... C'est autre chose, intuitive, je pense. Mais je crois qu'il y a un cap un peu difficile à passer dans celui-là pour que ça marche. Et je ne veux absolument pas que ce soit une émission comme on en fait beaucoup sur le handicap. C'est pas le propos, quoi.
Mais ce qui est compliqué là, c'est que cette voix que vous nous donnez à entendre, c'est une voix déjà qu'on n'a pratiquement jamais l'occasion d'entendre, la voix des sourds. Et j'ai l'impression que c'est une voix qui est un peu taboue parce que beaucoup d'entre eux préfèrent ne pas l'utiliser par pudeur parce qu'ils ont conscience qu'elle n'est pas aussi juste.
On ne sait pas comment la poser.
Voilà. Et puis en même temps, elle a vraiment une voix, en plus je pense que c'est son côté nerveux. Moi, je trouve qu'elle a une voix hyper violente, quoi. Ça m'a vraiment mis très mal à l'aise.
Mais c'est
ça.
C'est une des raisons que si elle a beaucoup de mal à le monter parce qu'elle parle beaucoup plus. Et là, moi, j'ai fait un exercice de montage où j'ai ajouté des blancs et des blancs et des blancs parce que c'est insupportable. C'est à la fois comme si elle vous engueulait et, ou si elle pleurait.
En même temps, c'est très...
ou comme si elle criait. C'est comme une plainte.
Exactement.
Quelque part.
Je trouve que c'est triste. Hein.
Moi, je trouve que la voix, elle a un truc très... dramatique.
Moi, je trouve que tu t'y adaptes. Enfin, je trouve que la première phrase, elle te choque, mais après, en fait, tu t'adaptes à son langage, quoi. Et moi, je n'ai pas du tout senti de dramatisme, quoi.
Mais moi,
de colère.
Je me demande si je ne l'ai pas rendu un peu trop clean, quoi. Mais ce n'est pas la peine de faire écouter un truc qui est incompréhensible, qui me faisait même effet que quand j'ai commencé à le monter. C'est ça qui est difficile de juger. J'ai fait... deux trucs avec un gamin autiste et là je sais pas parce que lui il fait que des sons et c'est lui insupportable quoi. Mais je pense que je sais pas, on fait ce qu'on peut, on peut revenir dessus aussi le temps qui court. On m'avait dit que vous avez peut-être des choses à faire écouter. Non, il n'y a pas quelque chose qui se passe maintenant. Il y a d'autres questions ?